enseignez au collège Stanislas à Paris.
Je suis bénévolement depuis que je suis en retraite. Je fais un cours d'éducation religieuse au collège Stanislas à Paris, qui est un collège pas trop progressiste, ça va. Mais mon boulot avant, c'était d'être professeur à l'université Paris 5 et d'enseigner à des psychologues les rapports entre cerveau et comportement.
Professeur,
merci. Vous êtes plus nombreux qu'à Saint-Nicolas, donc vous êtes une des clés de la démocratie. Merci d'être venu. Je vais parler essentiellement de la décadence de la famille, mais sous un angle particulier. Je suis désolé qu'il y a presque plus de femmes que d'hommes ce soir, mais je vais parler du drame qui survient quant à l'image paternelle. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que la mère ne soit pas importante. Cela ne veut pas dire que, je dirais jusqu'à une date récente, les femmes aient toujours été meilleures que les hommes, parce que malheureusement, dans certains domaines, ça change. Mais tout le monde connaît l'importance des mères, l'importance des femmes, mais il est important aussi de savoir l'importance des pères. Et c'est une importance, vous le verrez, qui est pas théorique, je dirais symbolique. Et après tout, Dieu, qui est autant justice que tendresse, s'est révélé comme étant un Dieu père. Quelque part, bien sûr, il a dû non pas réfléchir, mais il savait qu'il devait, pour notre psychisme et notre affectivité, se présenter ainsi. Et on va voir que finalement, justement, dans le camp de l'ennemi, chez les psychanalystes et chez les psychologues, eh bien, on trouve de multiples arguments, car on a montré effectivement que le père a un rôle tout à fait essentiel. Alors, il est certain que, bon, si on prenait une analogie, c'est vrai que dans une famille, la mère, c'est beaucoup. Je dirais que c'est le moteur, c'est ce qui fait marcher la famille. Je dirais que c'est aussi l'habitacle de la voiture, c'est là où on se sent bien et où l'on navigue vers l'avenir tous ensemble en famille. Mais le père aurait un peu, si vous voulez, le rôle de la direction, de l'embrayage, de la boîte de vitesse. Donc vous voyez que ce rôle a aussi des incidences tout à fait importantes. Alors, des attaques répétées contre l'image du père qui ne date pas d'hier et qui remonte à la sinistre révolution française. Oui, la France a un triste destin. Elle est à la fois la fille aînée de l'Église et la mère de la Révolution. C'est vrai que ça fait une fille mère qui se porte très très mal en ce moment, et on serait plutôt inquiet si on n'avait pas l'espérance qu'il puisse suppléer à l'espoir. Regardez, voilà quelques citations. Je m'appuie beaucoup sur des citations parce que c'est une façon de prouver que ce n'est pas uniquement mes lubies personnelles que je raconte, mais qu'il y a effectivement, si vous voulez, tout un consensus qui va dans une certaine direction. Bon, un montagnard quelconque, instituons le divorce, il serait heureux pour l'espèce humaine que tous les enfants ne connussent point leur père. Danton lui-même clamait « Mon fils ne m'appartient pas, il appartient à la République ». Donc, au nom de l'intérêt général, complètement fictif et très théorique, on va commencer par bousiller la cellule de base de la société, qui est la famille, et qui a effectivement, moi à l'époque, qui avait pour chef le père. Marquis de Sade, quels sont, je demande, les dangers de cette licence, celle qu'il veut instaurer? Des enfants qui n'iraient point de père? Et qu'importe, les enfants ne doivent appartenir qu'à la République. Voyez-vous, ça fait plus de 2 siècles qu'est née ce tir ciblé sur l'image paternelle qui ne fait que s'amplifier. Et Honoré de Balzac avait bien raison lorsqu'il disait « En coupant la tête de Louis XVI, la République a coupé la tête à tous les pères de famille. » Il y a là quelque chose de symbolique. Le père de la nation, de la patrie, a effectivement été patrie. Ça en dit très long. A été effectivement purement et simplement décapité. Et c'est bien sûr une décapitation qui est symbolique, reprise d'ailleurs par Elisabeth Badinter. Susurreuse, à ce propos, on aura compris que le rejet du roi et du père est encore plus profondément celui de toute transcendance. Donc vous voyez que derrière l'image du roi, derrière l'image du père, se profile l'image de ce qui serait au-dessus, ce qui ne veut pas dire que les pères soient tous au-dessus des mères, mais que symboliquement, il y a quelque chose au-dessus, qui est au-delà, vers lequel il faudrait tendre, etc. Et c'est cela, finalement, dont on ne veut plus, et c'est ça que l'on essaye. On allait essayer de démolir avec la Révolution française. Alors, il faut bien voir que à l'époque actuelle, alors c'est vrai objectivement que pendant des siècles, non des millénaires, l'homme objectivement a exploité la femme. Mais malheureusement, vous savez ce qui se passe dans toute révolution, c'est qu'en général, les statuts d'exploité et d'exploitant sont simplement permutés et que finalement la justice n'a pas progressé. Il n'y a que les rôles qui ont été redistribués. Et tous les psychanalystes ou psychiatres actuels sont d'accord pour reconnaître que maintenant, l'investiture paternelle, être père, dépend de la mère. Bon, Didier Dumas, un analyste de l'enfant, on ne peut de nos jours être père qu'à condition que la mère le veuille bien. La fonction paternelle n'est par ailleurs possible que si la mère le permet, que si elle-même a pu intégrer cette notion dans sa propre histoire psychique. Haddad, c'est un Libanais, je pense, mais un Libanais chrétien. Et c'est vrai qu'il y a là un problème important, c'est qu'en général, une femme aura d'autant plus facilité à reconnaître à son mari le rôle de père qu'elle-même aura eu de bons rapports avec son propre père. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des mésententes par rapport au père qui, finalement, se reproduisent à la génération d'après pour des raisons strictement psychologiques. De Monseigneur Anatrella, où il était nommé évêque récemment, ça lui donne un petit peu plus de poids pour essayer de lutter contre le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les homosexuels en France. Bien, les femmes reprochent aux hommes de ne pas jouer leur rôle de père, alors que, plus ou moins consciemment, elles se sont arrangées pour ne pas leur laisser la place qui leur revient. Et c'est vrai que c'est un phénomène sociologique qui est maintenant de plus en plus fréquent. Alors, non seulement, bien sûr, il y a peut-être des responsabilités féminines, mais tout ça, c'est un phénomène de société très, très général. Et au fond, c'est de la société que dépend l'investiture paternelle. Boris Cyrulnik, un psychiatre qui écrit beaucoup d'éthologie intéressante. Le père n'a de l'autorité que si on lui en donne la permission. Sinon, c'est un tyran, effectivement. Depuis mai 68, tous ceux qui veulent exercer la moindre autorité risque très facilement de passer pour machiste, tyran, fasciste, enfin, vous devez avoir aussi toute une kyrielle de qualificatifs dont on se sert à mauvais escient chez les bons. Sinon, c'est un tyran, il faut qu'autour de lui, sa femme, oui, la société aussi, dise à l'enfant, c'est ton père, il a le droit de dire la loi. En général, la femme le dit plus ou moins, la mère le dit plus ou moins, et la société dit ouvertement le contraire. Vous savez, dès 1968, là, il y avait des petites donzelles qui défilaient avec des écriteaux « Papa pue ». Mais elles ne se rendaient pas compte qu'inconsciemment, ce qu'elles visaient, ce n'était pas seulement leur propre père, c'était le père de leurs futurs enfants. Bon, rares enfants, d'ailleurs, avec la contraception. Là où il exerce encore son autorité, le père est immédiatement soupçonné de n'avoir en tête que sa propre jouissance, on suspecte de y penser à ses propres intérêts. À partir de la deuxième partie de ce siècle, chaque incarnation du pouvoir devient suspecte. Donc ça, c'est un psychiatre, un psychanalyste. La plupart des psychanalystes sont un peu tordus et la plupart propagent effectivement des doctrines contraires à la morale chrétienne. Quelques-uns, rares, apportent des éléments intéressants, récupérables et ne sont pas pervers. Le mari a accepté de se voir dessaisi de certaines de ses anciennes fonctions maritales et paternelles par son concurrent le plus dangereux, l'État-providence. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, c'est très simple. Maintenant, statistiquement, ce sont beaucoup plus les femmes que les hommes qui demandent le divorce, qu'à ça tienne, avec le salaire en tant que mère célibataire, la location, le fric du mari, elle n'en a plus besoin, et comme le dit Bégère dans un autre passage, finalement, le principal rival du mari, c'est très souvent l'État, l'État-providence, au moins tel qu'il existe en France. Il est certain que dans un tel contexte, le père ne sait plus trop quelle attitude de jouer et très souvent il va adopter des statuts ambigus. Le père va jouer le rôle de grand frère, voire de mère bis. Et là encore, ce sont uniquement des psychiatres et des psychanalystes qui n'ont pas pour but forcément le maintien de la famille traditionnelle qui s'expriment. C'est le modèle des papa-poules qui prévaut. Non pas un père, mais plutôt un grand frère. Le père est tout simplement infantilisé. L'homme est vécu comme un grand enfant, comme un grand frère, mais certainement pas comme un père. Le nouveau père apparu dans les années 70 n'est plus le pater familias. Père et enfant deviennent frères. D'Aldo Nauri, qui écrit un bouquin très intéressant, c'est un Libanais aussi, lui, je crois, oui. À peine la mère vient-elle à manquer, un peu à son jeton, que le nouveau père prend le relais, devenant ainsi une deuxième mère, et si longtemps à la limite, nous allons vers un monde où le père de toujours, en tant que concept, n'existera plus. Donc vous voyez qu'il y a effectivement des modifications de la société qui sont très très importantes et qui bien sûr sont encouragées par l'État dans différents dans différents pays. Là, j'ai deux exemples qui vous montrent comment... Vous savez, il y a un moyen très simple pour subvertir des concepts. On commence généralement par changer les mots. Lorsque vous voyez un nouveau mot apparaître, méfiez-vous, ce mot fatalement piégé, derrière, il y a automatiquement une bombe sociale à retardement qui est placée. Alors, exemple de cette subversion des mots, donc Xavier Lacroix, qui lui est un philosophe chrétien, qui constate un travail obstiné a lieu actuellement sur le vocabulaire. On dilue le sens des mots père et mère, par exemple, en distinguant la mère biologique et la mère sociale avec les mères porteuses. Mais c'est pareil pour la fonction paternelle. Donc certaines femmes pourraient avoir une fonction paternelle. Lorsque par exemple on dit que deux femmes lesbiennes conçoivent ensemble un enfant, alors, bien sûr, avec tous les succès d'années et des sexes, avec les fameux genders, qui sont aussi variés que les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pour ça que le drapeau des homosexuels, c'est du sang de l'arc-en-ciel, c'est qu'effectivement on peut aller d'une valeur à son extrême, mais à condition d'accepter d'avoir de toutes les couleurs, évidemment. Et là, heureusement, c'est pas passé, mais ça finira par passer, ça a été refusé de José Luis Zapatero, qui est le nouveau Premier ministre espagnol, qui est un grand ami des gays. Il avait proposé un arrêté, le 33-2006, l'expression « père » sera remplacée par celle de « progéniteur A » et l'expression « mère » par celle de « progéniteur B ». Évidemment, en cas de mariage homosexuel, maintenant, c'est plus gênant, il y a un progéniteur A, progéniteur B, et avec ça, on peut faire n'importe quoi. Et vraiment, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut faire le contraire de la famille, de toujours celle qui a fonctionné, qui a permis le développement de la civilisation et entre autres de la civilisation chrétienne. Alors, cette image paternelle est non seulement dégradée, subvertie dans les mots, mais elle est aussi par ce que l'on appelle, entre guillemets, l'intelligentsia, ceux qui se prennent pour des intellectuels de demain, elle est carrément vomie. Alors ça monte là très loin. Charles Fourier, qui était un utopiste, n'est-ce pas, du début du 19e siècle, il avait inventé le familistère, mais il avait aussi inventé la sexualité de groupe. Mon système social a l'avantage de neutraliser l'influence des pères, qui ne peuvent que retarder et pervertir l'enfant. Du coup, donc pour Fourier, eh bien, le père ne peut que pervertir l'enfant. On avait actuellement des hommes politiques, je pense à certains de Bruxelles, qui se recommandent ouvertement de la philosophie de Charles Fourier. Paul Federn, un analyste de la première vague, le contemporain de Freud, la famille, il est vrai qu'il était communiste en plus, la famille constitue le plus grand obstacle à une victoire durable des soviets, il faut donc une société sans père. Donc les soviets eux-mêmes savaient très très bien que le père était un obstacle au bouleversement, au renversement de la société qu'ils voulaient opérer, et c'était encore en cours jusqu'à une date très très récente, puisque les pères n'avaient pas le droit d'assister à l'accouchement de leur femme, à la naissance de leur bébé, sous prétexte théoriquement d'hygiène. En fait, dans les projets initiaux du soviet, l'hygiène de la santé du peuple venait en 46e position, on s'en foutait éperdument d'ailleurs. Et même encore dans les années 70, il était courant qu'une femme venant d'accoucher reste dans des linges souillés pendant 3 jours. Donc ça vous donne un peu une idée de l'hygiène qui régnait dans les maternités soviétiques, qui effectivement à l'époque avait un taux de mortalité infantile qui était un des plus bas du monde et le plus bas d'Europe. Mais à part ça, le père ne devait pas rentrer parce qu'il aurait pu apporter des microbes. En fait, il aurait pu en attraper. Bon. Mais c'est une façon d'empêcher le père de voir son enfant venir à la vie. Il fallait que le père comprenne bien que l'enfant venait à la vie pour les soviets, et puis après, ma foi, il ferait son petit boulot pour le nourrir, mais c'était tout. De Victor Marguerite, un écrivain subversif à qui l'on avait retiré la Légion d'honneur en 22 pour un bouquin dans lequel il vantait déjà toutes les perversions actuelles. Dans son bouquin, la garçonne, pourquoi pas un enfant? Un enfant de ce père oublié demain, n'est-ce pas, qui n'hériterait que ce père, que la santé de la femme. Oui, c'était déjà à l'époque, si vous voulez, cette idée de. Et certaines femmes, pas forcément homosexuelles, sont partisanes de cette optique. On prend un mâle en passant, on fait faire un gosse, et puis pour le père, on le jette. Le père n'a pas de sens, a priori, on le nie, et on le nie avant même de faire l'enfant. Jean-Paul Sartre, il n'y a pas de bon père. C'est vrai que lui était orphelin très tôt, je ne vois pas comment il était à même de juger de la question, puisqu'il n'en a pas eu. Alors oui, cheveux grands féminins de 1960, papa pue. Il y a en fait Michel Lebrou qui est un psychopédagogue terrible. Alors il a passé 6 ans chez les Dominicains. J'espère qu'il n'avait pas prononcé ses vœux perpétuels, mais c'est un des plus tordus de toute la psychopédagogie. C'est bien ça qu'il enseignait après mai 68 dans la fameuse faculté de Vincennes, qui était la plus subversive. Le père est un obstacle fréquent à l'évolution des jeunes. En disparaissant, le père réalise une situation non directive. Oui, parce que Lebrou est un grand partisan des situations non directives. Évidemment, si le père disparaît, il ne risque pas de diriger quoi que ce soit. Donc, vous voyez ce que peuvent raconter les ténors de la psychopédagogie française. Alors, le pire, c'est que cette propagande s'exerce au niveau des tout-petits. Bon, ça, vous voyez, si c'est pas comme ça en Suisse, ça viendra un jour. Méfiez-vous, parce qu'on met son gosse à la crèche. Le mandat des crèches, au moins en France, vous avez des livres de ce genre-là. C'est la seule image que j'ai à vous présenter, mais elle est tellement sinistre qu'une seule suffira. Jean a deux mamans. Alors, vous avez d'autres titres de livres pour enfants, et vous. Mili, Mouli, et toutes sortes de papas. Donc, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon. Un autre livre. Alors, c'est la petite Cora qui parle. Je me marierai avec Anna. Papa porte une robe. Un mariage vraiment gay. Donc, vous voyez que cette subversion de la famille et aussi de l'image du père, elle est déjà préparée pour des tout-petits, puisque le graphisme là de la couverture du bouquin vous montre bien que c'est vraiment pour les tout-petits qui savent à peine lire. On commence déjà le bourrage de crâne pour essayer de modifier, de perturber profondément la société. Alors, on pourrait peut-être faire là un petit aparté. Je ne suis pas venu faire un cours de religion, mais tout cela, bien sûr, a des incidences religieuses. C'est que, oui, tout à l'heure, on évoquait notre Père. C'est qu'elle est là, en définitive, la fondation de l'image paternelle. En fait, paternité humaine et paternité divine sont très fortement intriquées l'une dans l'autre. Vous avez ici les différents psychanalystes qui s'expriment. Freud. La psychanalyse nous a appris à reconnaître le lien intime unissant le complexe paternel à la croyance en Dieu. Le Dieu personnel est psychologiquement un père transfiguré. Freud étant athée, pour lui Dieu n'existe pas, Dieu c'est uniquement l'image d'un père transfiguré. Mais en fait, Viktor Frankl, à noter que Viktor Frankl est un psychanalyste qui était certainement presque aussi doué que Freud, puisque à 16 ans, Freud publiait déjà certains de ses articles de son canard. Donc, et Frankl a quand même un gros tort pour notre époque, c'est que c'est un psychanalyste spiritualiste, il est juif, je ne sais pas s'il est pratiquant, mais enfin c'est un juif croyant, et pour lui, il estime même que ce qui forme les névroses, ce n'est pas tellement les problèmes sexuels de volonté de puissance, mais c'est avant tout le fait de ne pas avoir de sens à sa vie. Et dans ses bouquins, il explicite très très bien que avoir un sens à sa vie, pour la plupart des personnes, implique d'avoir une croyance en Dieu. Et Frankl, justement, renverse le problème. Ce n'est pas le père, l'archétype de la divinité, comme le dit Freud, c'est le contraire. C'est au contraire Dieu qui est l'archétype de toute paternité. Autrement dit, si la religion se porte mal, eh bien, sur cette planète, la paternité dans toutes les familles ne pourra que mal se porter. Vereg, que l'on a déjà vu tout à l'heure, qui est un contemporain belge, chaque père concret puise son pouvoir dans la croyance collective en un Dieu père originaire. Vous voyez qu'en fait, il y a donc bien une corrélation entre la paternité de Dieu et le statut du père dans chacune de nos familles. D'ailleurs, c'est plus qu'un voisinage, cette parenté qu'il y a entre les deux, c'est aussi une parenté de risque, parce que très souvent, ce sont les mêmes cibles. Et ce qui s'attaque à l'un s'attaque à l'autre, et réciproquement, Freud, nous voyons comment des jeunes gens perdent la foi au moment même où le prestige de l'autorité paternelle pour eux s'écroule. Alors évidemment, vous voyez donc qu'il y a aussi ce feedback, cette rétroaction dans ce sens-là. À chaque fois que dans une famille, l'image du père est gommée, amoindrie, effacée, c'est une probabilité de moins pour que la croyance en Dieu puisse continuer à perdurer. Élisabeth Badinter, si il le dit clairement, si l'humanité a voulu se débarrasser de Dieu, c'est avant tout parce qu'elle voyait en lui le symbole du père encore. Deux cibles communes, en fait, qui n'en forment qu'une. et d'Albert Jacquard. Je ne sais pas si ces bouquins. Alors, vous avez un Jacquard en Suisse qui est toxique, mais ce n'est pas celui-là. Ça, c'est un généticien qui a le culot de se faire passer vaguement pour crypto-chrétien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dieu, point d'interrogation, une sommité c'est atroce. Et le pire, c'est que dans la plus grande librairie catholique de Paris, la Procure, ils avaient trouvé moyen dans leur catalogue de faire une réclame en faveur de Jacquard. Alors, j'ai mis un mot directeur. Il dit, ah oui, je suis bien d'accord avec vous, mais ça doit être mon libraire qui s'est laissé abuser. Mais en fait, il va avoir un trotskiste comme libraire, il ne le sait pas. Bon. Mais Dieu, invention humaine dont je dois me débarrasser, tuer le Père, c'est d'abord tuer Dieu le Père. Mais le pire, c'est qu'il y a donc des catholiques, un peu progressistes, même beaucoup, qui s'imaginent qu'Albert Jacquard est un compagnon de route, alors qu'en fait, sur les listes électorales, c'est un compagnon de route du Parti communiste. Enfin, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Bon. Alors, le problème, c'est que, effectivement, il y avait un risque de déni du Père dans la catholicité. Julien Cheverny est un sociologue, en fait, c'est un fonctionnaire qui a écrit un bouquin sous un pseudonyme, mais qui faisait, il y a déjà une vingtaine d'années, cette réflexion dans ses bouquins. Pour trop de chrétiens, le christianisme est-il autre chose qu'un fraternalisme, le grand mythe social, si vous voulez, bon, qui du fils serait fait un frère, et qui du Père désormais ne ferait plus rien. J'ai trouvé que cette phrase est extrêmement pertinente et qu'elle résume effectivement bien des risques actuels pour la religion catholique. Alors, de Van Münster, qui était secrétaire de la conférence épiscopale hollandaise en 80, c'est dire donc qu'il est assez orienté dans le sens du progressisme, vu la Hollande, mais il note « Un courant de pensée modifie sensiblement toutes les mentalités par le déplacement d'un Dieu vu comme Père transcendant vers un Dieu vu comme Mère immanente. » Alors ça, effectivement, c'est aussi une des dérives flagrantes chez beaucoup de catholiques. Et Denzo Bianchi, qui a formé une communauté œcuménique en Italie, je ne peux rien dire de la validité de sa communauté, mais cette phrase-là est bonne, donc je l'ai retenue. « Ce qui menace le christianisme et que l'on trouve en pire dans les spiritualités du New Age, est une religion fusionnelle et narcissique, thérapeutique et maternante. Les chrétiens appellent Dieu notre Père, la fonction paternelle implique la séparation avec la mère, elle représente l'altérité. » Justement, ceci que l'on devrait assurer, mais on ne l'assure plus à cause de cette recherche d'une religion qui soit thérapeutique et maternante, mais qui finalement nous coupe un petit peu de l'altérité absolue que Dieu représente aussi pour nous. Dieu, c'est à la fois, bien sûr, et l'infinie proximité et l'infinie altérité, mais ça, notre pauvre cervelle ne risque pas de le digérer. Alors, si vous voulez, ça, là, on va faire un petit aparté. Il se trouve que le bon Dieu a mis dans notre cerveau deux régions différentes, l'une qui gère tout ce qui a trop plaisir et l'autre qui gère tout ce qui a trait au déplaisir. On parle même parfois de punition. Et c'est très marrant parce que chez l'homme ça marche un peu et chez le rat très bien. Si on stimule l'un et l'autre de ces régions, l'animal croit vivre une punition ou croit vivre un plaisir. Donc il y a cette balance entre plaisir, punition et aussi exigence. Or, bien évidemment, les exigences de la vie ne sont que pour survivre, et a fortiori les exigences morales demandent de dépasser le principe du plaisir et donc de s'infliger des choses qui ne sont pas toujours très très faciles, très réjouissantes. Eh bien, je pense que la fonction de la Sainte Vierge, est, bien sûr, tout le monde la connaît, mais pour moi, elle en a une, enfin, pas de plus, mais qui fait peut-être de soi pour beaucoup, c'est que Dieu ne pouvait pas manifester toute sa tendresse, je dirais en quelque sorte tout seul, parce qu'il faut que notre pauvre cervelle intègre à la fois quelqu'un qui est la justice suprême, l'exigence suprême, l'autorité suprême, et en même temps la tendresse suprême. Et ça ne colle pas très bien. Et c'est donc pour ça que dans les familles humaines, il y a la mère qui représente surtout la tendresse, mais parfois aussi l'autorité, et le père surtout l'autorité, mais aussi de la tendresse. Et bien, je trouve que c'est très heureux que, en quelque sorte, la Sainte Vierge puisse représenter toute la tendresse maternelle de Dieu, sans que l'on soit pour autant obligé de projeter sur Dieu, qui est un Dieu Père, justement, ces fameuses fonctions maternantes qui, quelque part, altèrent, si vous voulez, je ne dirais pas sa dignité, mais quelque part, altèrent son autorité. Et Je crois donc qu'il y a aussi bien au niveau du rapport à la transcendance divine que par rapport à nos parents, ce besoin qu'on projette plutôt l'autorité ou plutôt l'aspect maternel sur deux personnes différentes. Bien évidemment, toute la tendresse que la Vierge Marie, que la Sainte Vierge Marie peut nous manifester est la tendresse de Dieu. Mais je crois effectivement qu'elle a un rôle, je dirais, d'intermédiaire tout à fait essentiel. Et je crois que dans nos familles, c'est pareil. Bien sûr, s'il y a qu'un seul parent, si le père est décédé, la mère assurera à la fois et la tendresse et l'autorité. Mais psychologiquement, ce sera bien plus facile à intégrer, pour une personne quelle qu'elle soit, le fait que d'un côté vienne plutôt de la tendresse, et de l'autre côté, plutôt de la sévérité. C'est pareil dans notre justice, c'est pas pour rien qu'il y a un accusateur, un juge, il y a aussi un avocat. Il y a toujours cette dualité. Et vous savez, lorsque l'on veut penser simultanément l'infinie justice et l'infinie miséricorde de Dieu, bon, on n'y arrive pas, Dieu c'est transcendant. Eh bien là, c'est un peu pareil, dans une famille humaine, ça se passera plus facilement si les exigences viennent d'une personne surtout, et si tout ce qui est rassurant, tout ce qui est tendresse, vient plutôt de l'autre personne. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le père n'aime pas ses enfants autant que la mère, ça ne veut pas dire que la mère n'ait pas autant de rigueur morale que le père, mais pour l'enfant, c'est plus facile de s'orienter, en quelque sorte, dans un petit peu comme il y a pour le nord, il y a pour le sud, ça fait un champ, et dans ce champ, une boussole peut s'orienter, et le jeune aussi pourra s'orienter plus facilement. Alors maintenant, venons-en à tout ce que la psychologie a décrit comme étant les fonctions essentielles propres au rôle paternel. Donc vous savez, imaginez qu'un accoucheur, je ne coupe pas le cordon ombilical, hein, pour terme, c'est de la mort et de la mère et de l'enfant. Eh bien, il y a psychologiquement aussi un cordon ombilical à couper. On peut admettre que le tout petit enfant, au début, maman, d'abord je viens de maman, etc., il a l'impression qu'il ne forme qu'un avec sa mère, et il y a, de toute évidence, un cordon ombilical qui doit être psychique, qui doit être coupé, et là, c'est au rôle de le faire. Là encore, tous les psychologues, tous les psychiatres sont tout à fait d'accord avec vous. Le cordon ombilical symbolique doit être coupé par le père. Le père est l'élément étranger qui apparaît comme une autre réalité, permettant à l'enfant de devenir un sujet distinct de sa mère et de ne pas continuer à vivre sous sa dépendance. Car vous savez que c'est ça le risque, surtout pour un fils, c'est de rester fils à maman. Et ça, ma foi, c'est au père que revient de lui montrer qu'il y a une réalité en dehors du couple initial qu'il forme avec sa mère. De nombreux jeunes gens n'ont pas rencontré une réelle symbolique paternelle qui les aurait fait naître eux-mêmes. Et je ne sais pas si c'est un de ceux-là qui dit que c'est le père qui vient séparer cette relation fusionnelle et faire en sorte que cet ensemble mère-enfant devienne deux entités bien distinctes. Certains vont jusqu'à dire que certains adolescents de 40 ans, qui ont un comportement d'adolescent de 40 ans, en fait, ne sont pas vraiment nés à eux-mêmes parce que le cordon ombilical n'a pas été coupé. A fortiori, bien sûr, si la mère, bon, c'est pour des raisons qui ne sont pas toujours d'ailleurs de sa faute, séparée du père, il y a là un risque important. Le rôle du père est de desserrer l'étau de l'attraction maternelle dans l'exercice de la pensée. Effectivement, il faut savoir que la pensée, aussi paradoxale que cela puisse paraître, se développe finalement dans la frustration. Vous savez, on dit maintenant, c'était pas tant les gosses, on les aime même au supermarché, ils tripotent tous, ça les éveille. Pas du tout, pas du tout. Des psychanalystes ont démontré que le fait de dire un gosse ne touche pas favorise l'apparition de langage, le langage apparaît plutôt. Pourquoi ? Mais parce que le petit enfant qui n'est que désir, ah, je vois, j'ai envie, je prends, je touche. Mais il n'y a rien à penser. Il y a à avoir la sensation qu'on en attend pour posséder l'objet. Ne touche pas. Ah, pourquoi ? Ah. Et ça l'oblige à s'inventer finalement l'image symbolique de l'objet, et c'est ça qui met en place et le langage, tout le monde qui l'accélère, qui met en place et le langage et la fonction symbolique. Donc on voit que des interdits, en fait, ne sont pas, sont frustrants certes, mais ne sont pas des mutilations que l'on impose à l'enfant, c'est au contraire quelque chose qui va lui permettre de développer une pensée véritable et surtout de développer un retrait possible par rapport au monde. Vous voyez, des tas de jeunes, des mamans qui collent au monde, si je dis au monde immédiat, comme la peinture colle au mur, ils n'ont aucun recul, et faute de recul, bien sûr, ils ne peuvent pas c'est faire une idée de ce qu'est le monde réellement et de ce qu'eux-mêmes sont réellement par rapport au monde. Donc le père doit séparer l'enfant symboliquement pour lui montrer qu'il y a autre chose au-delà de la sécurité immédiate fournie par maman. Et, très important, le père aussi introduit l'enfant dans le temps. Alors le temps, vous voyez bien quelle est l'importance du temps. Le temps, c'est quoi ? Bien, c'est se rendre compte que je fais quelque chose maintenant et cela aura des conséquences plus tard. Le temps, c'est aussi la promesse possible, c'est les engagements, c'est la prévision. Alors, deux citations là. L'enfant roi est un enfant jamais né parce que sa mère, à force de créer autour de lui un utérus virtuel, à force de le maintenir dans le non-temps utérin, pour le bébé, l'utérus, la notion de temps bien sûr n'existe pas, annule pour lui la dimension du temps. Le nouveau père contribue à l'entretien de cet utérus virtuel, alors qu'au contraire, il incombe essentiellement au père d'introduire l'enfant dans la dimension du temps. Être introduit dans le temps, eh bien, c'est pouvoir grandir, c'est pouvoir avoir une histoire, quelque chose qui se développe, qu'il ne soit pas quelque chose de cyclique. Bon, là, je suis désolé, je me cite moi-même. Bon. La mère est pour l'enfant un espace de vie relativement atemporel, fait de constantes et de répétitions sécurisantes. Le père apporte une dimension temporelle structurante. L'enfant a à prendre en compte la conséquence de ses actes au-delà de l'immédiat présent. Vous savez, le petit enfant, normalement, il est conduit par le principe du plaisir immédiat. Et le propre du principe du plaisir, c'est qu'il ne gère que l'instantanéité. Un grand philosophe chrétien, Gabriel Marcel, parlait de l'indigente instantanéité du jouir. La jouissance, elle est dans l'instant. La jouissance ne permet jamais de construire un lendemain. Et en général, elle bousille même le futur. Mais donc, vous voyez que tout cela, ce sont des fonctions relativement symboliques, très importantes. Alors, bien sûr, le père est facteur de différenciation sexuelle. Mais sans ça jusque-là, une mère qui fait la loi à la maison et obscurcit la relation au père, en limitant l'identification des garçons à la virilité paternelle, favorisera l'impuissance sexuelle ou l'homosexualité passive. Ce n'est que face au père que le garçon sera confirmé dans sa masculinité et que la fille pourra se féminiser. C'est moins important pour la fille que pour le garçon, parce que le garçon qui a l'impression au début, tout petit bébé, qui ne fait qu'un avec maman, il faut qu'il passe en gros d'une identification au sexe féminin à une identification au sexe masculin, alors que pour la fille, elle restera dans son créneau. Néanmoins, si vous voulez, là encore, le père et la mère, comme le pôle nord et le pôle sud, créent une sorte de champ, et dans ce champ, la boussole s'oriente, y compris la boussole des petites filles, ce qui fait que la différenciation féminine d'une fille sera d'autant meilleure, effectivement, que le père aura joué son rôle de père. Xavier Lacroix, garçon ou fille, l'enfant a besoin pour la découverte de son identité d'un jeu subtil d'identification et différenciation avec ses deux instances paternelles et maternelles. Donc, ceux qui veulent confier des enfants à des couples homosexuels font du sabotage intégral, mais bon, certains sont mis pour ça, mais enfin. Alain Haddad, l'apparition du père dans l'espace psychique du jeune enfant va lui permettre d'acquérir les premiers éléments de sa personnalité. La mère peut empêcher le père de jouer son rôle. Cette attitude peut entraîner l'enfant dans des développements pathologiques, psychoses infantiles. Alors ça, je l'avais censuré parce qu'en France, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour avoir un procès et se retrouver obligé de donner des milliers d'euros au mouvement de défense des homosexuels dans des comportements, ben, la folle terre avec hyper-vert, on peut le dire, homosexualité, sadisme, masochisme. Oui, c'est très marrant parce que dans tout le bouquin de psychiatrie, jusque dans les années 80, on parlait de certains comportements pervers. Et puis à partir des années 80, ça s'est instauré, on a supprimé carrément le mot pervers, et maintenant on parle de paraphilie, ceux qui aiment à côté de l'autre façon. Vous voyez, là encore, la façon de subvertir les mœurs en changeant les mots ou en supprimant certains. Peut-être un des rôles les plus importants du père, le père ouvre au monde de la réalité. Alors c'est quoi ce monde réel ? Alors c'est ce qu'on appelle en psychologie le principe de réalité, et le principe de réalité se définit par opposition au principe du plaisir. On retrouve donc là encore, si vous voulez, ce côté indigent du plaisir et de la jouissance, parce qu'il se passe non seulement dans l'instant, mais en même temps, il nous aveugle et il nous empêche de voir le monde tel qu'il est, avec ses risques et avec les différentes options qui se présentent. Il impose au père de faire prendre conscience au petit enfant qu'il existe des réalités en dehors de la sienne propre. De Monsignor Laprella, le rôle du père est d'introduire l'enfant dans la réalité, ce qui favorise l'éveil du rationnel, important, et du sens des relations extérieures. Point important, bien sûr, beaucoup de femmes travaillent, je comprends bien pourquoi, mais il ne suffit pas d'argumenter que la mère travaille pour croire qu'elle peut introduire la réalité extérieure à l'instar du père. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, et bon, le monde est tel qu'il a été fait, même si les deux parents travaillent, le père garde un rôle privilégié pour montrer la réalité du monde à l'enfant. Peut-être parce que la réalité du monde comporte pas mal de risques, on peut prendre pas mal de gadins dans la vie, et le père est un peu celui, des fois, qui est un peu le rabat-joie, qui dit, oui, mais hey, c'est pas si simple, et puis il y a les risques, et puis etc. Donc le père a ce rôle, tout à fait ingrat d'ailleurs, mais qui est essentiel pour que, ensuite, l'enfant tienne debout sur ses jambes. Le matriarcat social et éducatif actuel débouche sur une perte de contact avec la réalité et sur la confusion entre virtuel et réel. Il y a même Evelyne Sureau, qui pourtant, sociologue protestante, qui était féministe assez engagée, elle a participé à la fondation du planning familial, mais elle commence à se rendre compte qu'on risque de casser pas mal de choses et qu'après ça sera pire qu'avant. Le père est l'intermédiaire entre le foyer et le monde. Son métier est un métier d'éducateur, il fait comprendre les rouages de la cité, le jeu de la civilisation. Là, c'est la réalité sociale, on en parlera. Mais ce qui est important, c'est que à une époque où les jeux vidéo plonge carrément les enfants dans le virtuel pendant une bonne partie de la journée, le rôle de l'insertion dans le réel, du principe de réalité, est de plus en plus important. Ça atteint des fois des critères tout à fait incroyables. Il y avait des gosses qui s'amusaient à jouer, à traverser un autoroute en courant. Défi. Parenthèse, je ne sais pas si j'en parlerai après, mais je le dis pendant que j'y pense. Vous avez remarqué que maintenant, du canyoning au saut à l'élastique, etc., les jeunes aiment bien prendre plus de risques qu'ils n'en prenaient autrefois. Ce n'est pas qu'ils soient plus courageux. C'est que, en fait, ce que recherchent les jeunes dans ces actions risquées, qu'on appelle les comportements ordaliques, qui peuvent être aussi des comportements de pure délinquance, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller. Et autrefois, chaque jeune savait jusqu'où il pouvait aller parce que son père lui avait dit. Soit tu peux faire ci, soit tu peux faire ça. Bon, c'était parfois peut-être un peu autoritaire, c'était parfois peut-être à côté de la plaque, mais il avait eu un référentiel extérieur qu'il respectait et qui lui disait tu peux faire ci, tu peux faire ça. Maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent faire. Alors ils essayent et certains se plantent. Et justement, donc ces gamins s'amusaient à traverser l'autoroute, puis il y en a qui a été tué. Et un de ses collègues dit, oh, ben, c'est pas grave, il a encore deux vies. À force de jouer aux jeux vidéo, il s'imaginait qu'un être humain, on fait clic quelque part, je ne sais pas où, et sans doute on recommence à zéro et on commence à vivre. Alors, vous voyez donc l'importance de ce principe de réalité dans un monde qui est envahi complètement par le virtuel. Bien évidemment, le risque, c'est qu'ensuite, ces individus qui ont été mal formatés au principe de réalité vont partir dans des thèses fumeuses politiques. Lorsqu'ils deviennent politiciens et qu'ils prennent la tête d'un pays, vous voyez un peu les dégâts où ça peut nous mener, évidemment. Oui, ça, c'est... Il suffit d'ouvrir les journaux pour voir des propositions complètement aberrantes. Alors, autre fonction très importante, le père introduit la fonction symbolique chez l'enfant. Vous savez ce que c'est la fonction symbolique? C'est non seulement le langage, mais c'est la capacité, finalement, d'évoquer ce qui n'est pas présent comme étant présent, parce que je peux m'en faire une représentation dans ma tête. Autrement dit, c'est toute la pensée réflexive, c'est toute l'intériorité qui peut se développer. Toute la pensée abstraite. Bon, alors, le père donne accès au monde symbolique en se situant entre la mère et l'enfant. C'est pas que la mère ne puisse pas donner une fonction symbolique, c'est que la mère est tellement gratifiante pour l'enfant, il n'a pas besoin d'inventer un symbole de la mère, maman, c'est son monde et ça suffit. Il faut quelque part couper ce court-circuit pour qu'il puisse aller s'intéresser à autre chose au-delà. Il lui permet d'acquérir son autonomie psychique et de se réaliser comme sujet. C'est en lui désignant son père que toute mère introduit son enfant au monde symbolique. Donc en fait, un des plus beaux cadeaux aussi que la mère puisse faire à son fils et dire, écoute, ça c'est ton père, d'accord, je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec lui, des fois il n'est pas marrant, mais c'est ton père, il est l'autorité et il faut la respecter. Et ce faisant, elle rend grand service d'abord à son enfant et aussi éventuellement au père. Alain Dad. Dans cette espèce créée par l'apparition du père, vont émerger les différentes formes d'expression symbolique, le langage tout particulièrement, et permettre au jeune enfant de maintenir ce lien indispensable avec la mère. Parce que c'est là un très beau rapport de couple, une autre façon de faire un enfant à long terme, c'est qu'en lui désignant son père, le père va lui donner la fonction symbolique, ceci va accélérer l'apparition du langage, mais ensuite, le langage lui-même, c'est la mère qui passe la plupart de son temps avec l'enfant, qui va le développer et qui va en profiter la première. Donc vraiment, le langage chez l'enfant se fait vraiment à deux, avec le père et avec la mère. Alors bien sûr, oui, ça je l'ai déjà évoqué, le père désigne les contraintes et tout particulièrement les contraintes de la vie en société. Le père vient délivrer l'enfant du sentiment de toute puissance. Et oui, il y a quelque chose qui est bien étudié chez les enfants, surtout chez les enfants gâtés, et trop gâtés souvent par leur maman. Il y a un délire de toute puissance. Vous savez, c'est le genre d'enfant qui dit, bon, tu vas aller à l'école, tu vas être sage. Bon, je vais être sage. Mais la maîtresse va te monter. Et tu mettras, je ne sais pas, au coin. Si ça existe. Ah ben moi, je mettrai la maîtresse au coin. Oui, à ce moment-là, les gendarmes viendront. Mais moi, je mettrai les gendarmes en prison. Donc, c'est fréquent de voir chez des enfants gâtés, ce qu'on appelle des délires, des fantasmes de toute puissance. L'enfant se croit vraiment tout puissant. Or, c'est le père et lui seul qui dit non, tu n'es pas tout puissant, moi je suis plus puissant que toi, mais même moi, je ne suis pas du tout tout puissant, et pour négocier ma vie, ben, je dois tenir compte de mille et une contraintes qui sont le lot de la vie quotidienne. Donc le père doit prendre sa place et signifier à l'enfant que malgré tout l'amour que la mère porte à son enfant, elle lui porte malgré tout, et elle lui porte à lui, au père, un amour antérieur. Ça c'est important aussi. Que le père rappelle que, oui, bien sûr, tu es là parce que papa et maman s'aiment, mais on s'est aimé avant que maman ne t'aime. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que, sans devenir un fanat du complexe d'Édipe, ce sont des réalités qui existent et qu'il est bon de contrer des origines. Le rôle du père va aussi lui permettre d'intégrer les limites de ses désirs et de créer les premiers signes de sociabilité. Alors, comprenez bien que si le rôle du père est en vrille, les limites, la sociabilité, tout ça ne sera plus respecté. Donc vous avez là la moitié de l'explication de la délinquance des jeunes dans tout le milieu occidental. Là où l'image du père s'effondre, la délinquance ne peut que croître. C'est du père que l'enfant apprend à respecter la société. Une défiance de cette fonction paternelle peut entraîner une mauvaise intégration de tout ce qui a un rapport avec la loi, avec l'autorité, les limites, et l'acception de la volonté de Dieu. Et là encore, on retrouve le couplage entre ce qui se passe sur terre et ce qui a trait à leur rapport avec la transcendance. Le père apprend à l'enfant à respecter la loi civile, la loi de la cité, mais aussi la loi de Dieu, savoir qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, des choses que l'on ne choisit pas en fonction du principe du plaisir. Bon, dans l'autre pédopsychiatre, c'est surtout l'image du père qui est porteuse de l'interdit et de la loi. Alors, bien sûr, maintenant, vous savez qu'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de loi, et de fait, comme par hasard aussi, il n'y a plus de père. Donc là encore, alors lequel entraîne l'autre, lequel entraîne l'un, tout ça, ce sont des phénomènes qui se bouclent sur eux-mêmes et qui forment des cercles vicieux qui s'amplifient. Après, que ça ne s'amplifie pas, mais au contraire, ça se ratatine jusqu'à un degré qui approche de zéro. Seulement, il est bien évident que une société qui continue sur cette voie-là, il n'y a plus de famille possible, il n'y a plus de société possible, et là, le principe du plaisir va finir par en prendre un coup. Alors peut-être que les gens comprendront qu'il faut faire marche arrière, mais ça sera difficile. Le père a la chance maintenant d'avoir un idéal. Et oui, c'est très curieux, mais vous savez, vous avez des jeunes qui ont un idéal, bon, ils veulent, je ne sais pas. Et on remarque que tout cela est lié encore à l'influence paternelle. Les hommes sont moins ambivalents, moins affectables, quand ils ont vécu une bonne identification à leur père. Le père est celui qui donne à la fonction de sublimation sa forme la plus éminente et la plus pure. Vous savez, la sublimation, c'est pas un mythe, c'était découvert par Freud, on peut sublimer des passions élémentaires, l'agressivité ou la sexualité, pour en faire d'autres choses plus hautes et plus grandes. Et bien cette sublimation, elle est aussi à l'image du rapport avec le père. Évelyne Sinoco encore, c'est du père au fils que se perd la transmission de l'idéal. Et c'est vrai que généralement, c'est le cas, au sens d'idéal, de réalisation sociale. Et Henri de Monterland, c'était pas un modèle dans tous les domaines, mais il avait certaines phrases emblématiques qui étaient puissantes. La voix du sang n'est puissante que chez la mère, pas seulement. Pour l'homme, les seules vraies filles sont spirituelles. Bon, c'est une phrase extrême, mais ça montre bien le rapport qu'il y a, si vous voulez, entre la spiritualité et le rapport au père. Alors maintenant, vous me direz, mais tout ça, à fond, j'ai l'air de raconter un peu que la mère est tellement bonne que finalement elle peut gâter son enfant et que le père, en fait, doit être un infotyrant. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de voir dans quel contexte appliquer ce genre de choses. Parce que, vous savez, là, ce bouquin-là, j'ai écrit pourquoi ? Pour montrer que l'instinct sexuel n'était pas une panacée au point de vue intelligence comportementale chez l'homme. Mais tous les instincts sont des comportements programmés. Vous savez, dans un avion là, qui passe à 10 000 mètres, il y a un programme de pilotage automatique. Mais imaginez un pilote qui veut faire de la voltige, qui veut vraiment faire tout ce que l'on peut faire de plus beau ou de mieux avec un appareil, il ne va pas mettre un pilote automatique, c'est lui-même qui va, en artiste, piloter son avion. Eh bien, dans notre comportement, c'est pareil, nous avons des registres comportementaux inscrits dans le cerveau, c'est utile, ça permet au pilote de faire des mots croisés pendant que l'avion vole tout seul, mais au moment des délicates, quand on est un nuage d'orage et tout, là il faut reprendre les graines. Eh bien, dans notre vie c'est pareil, il y a des comportements instinctuels qui ont leur utilité, bon. Mais la véritable liberté s'exerce si on prend le contrôle de ces comportements instinctuels. Or, il y a l'instinct sexuel, bon, bien sûr, tout le monde le connaît, c'est dégueu, mais il y a aussi l'instinct maternel. Très utile, ça permet la survie des petits, etc. Mais l'instinct maternel lui-même peut avoir certains excès, et il faut savoir, comme de tout instinct, se méfier, parce que c'est quelque chose de programmé, qui peut être rigide, et qui peut dépasser l'optimum. Alors effectivement, peut-on trop aimer son enfant ? Bien sûr, aimer, là je ne l'écrirai pas avec un A majuscule, ce serait un A minuscule, mais ça serait plutôt, peut-on trop gâter son enfant, et là bien sûr, ça devient une évidence. À noter que bien évidemment, il n'y a pas que les mères qui gâtent leurs enfants, les pères aussi peuvent gâter leurs enfants. Je suis moi-même une fille handicapée mentale que j'adore et que j'aurais peut-être dû être poussière avec elle, que je ne l'ai pas. Mais regardez ce que disent maintenant les psychologues de l'enfant, les pédopsychiatres. La majorité des enfants et adolescents que je reçois, ils le reçoivent en thérapeutique. Hein, ça a quelques-uns et c'est contemporain. Ont un vécu commun. Ils ont tous connu un amour parental constant. Ils ne souffrent pas de problèmes affectifs, mais ils présentent un déficit criant quant à l'acceptation des frustrations quotidiennes. Et c'est bien ça le problème, c'est que si dès qu'un enfant a un désir, si on satisfait ce désir, a fortiori ce qui est pire que tout, si on satisfait le désir avant même qu'il ait commencé à naître, hein, on lui offre un train électrique, il a 3 ans, il n'a pas rien, évidemment. Eh bien, l'enfant n'est pas habitué à vivre cette frustration que représente le fait « Ah, je voulais ça, et puis je ne l'ai pas. » Et puis, je ne l'ai pas, et ça ne vient pas. Et cette tolérance à la frustration, c'est la moitié de la civilisation. Et si les enfants ne sont pas quelque part peu ou prou frustrés durant leur petite enfance, eh bien, ils sont incapables, plus tard, de supporter des frustrations plus importantes. Bon, vous voyez bien que si on n'a pas pu résister, n'est-ce pas, au fait de manquer d'un morceau de chocolat quand on avait 3 ans, lorsque l'époux ou l'épouse devient un peu caractériel parce qu'il est dissocié dans sa profession de santé, eh bien, on va voir un psychanalyste qui vous dit « Largue-le pour les uns et les autres, ça se passera mieux » et tout le monde le fait. Pas tout le monde, mais beaucoup le font. Et donc, voilà l'importance, effectivement, de cette frustration. Pour vous donner un exemple, vous avez effectivement des psychanalystes, des pédagogues qui déraillent complètement. Je donnais un jour deux grand-mères dans le train qui se plaignaient parce que le petit-fils de l'une d'elles est élevé un peu bizarrement. Le pédiatre avait conseillé qu'il pouvait faire ses petits besoins là où il voulait, ce qui fait que le petit faisait ses besoins sur le tapis du salon, et ma foi, les parents stoïques supportaient ça. Eh bien, on a comparé deux lots d'enfants. Alors, il ne s'agit pas de les brimer. Les uns qui sont élevés d'une façon extrêmement laxiste au niveau de la propreté, et qui sont nourris à la demande. Dès que le bébé pleure, une tétine, enfin, plutôt le biberon, au sucre pas. Et d'autres qui sont nourris à l'heure fixe, et pour lesquels, sans être des parents tyranniques, on a une exigence réelle de propreté. Et puis on lui répond 20 ans après. Et c'est très curieux de voir que des choses aussi infimes ont pu avoir autant d'incidents. On se rend compte que leur capacité à fixer des buts où il faut se dépasser, leur capacité de relever des idéaux difficiles, est directement fonction du mode d'éducation. Ceux qui ont été élevés pour la propreté et nourris à la demande d'une façon laxiste, oui, ils cherchent un petit boulot pour être pédant dans la vie, et l'autre, ils vont carrément, les autres vont décider de créer une entreprise, enfin, des gens qui veulent se dépasser, ils se fixent des buts qui sont. Ben, c'est très simple, c'est que, qu'est-ce que c'est au fond que se fixer un but difficile dans la vie? Ça veut dire soit faire des études très longtemps, avant d'avoir un salaire honnête, ou bien prendre des métiers à risque, etc. Et tout ça veut dire que pendant des années, on va vivre des choses difficiles, frustrantes, et puis la récompense, elle viendra. Plus tard pourquoi? Parce que justement on a une bonne gestion du temps et qu'on a assez confiance en soi pour croire que plus tard, bah oui, je réussirai à y arriver. Et on part dans cette direction et on y arrive. Les autres, non, justement, le temps, là, le futur, ils ont peur, etc. Et puis, bah oui, mince, alors pendant 3 ans, hein, 4 ans, 5 ans, et ils sont incapables de faire le saut, ils ne peuvent pas accepter ce que l'on appelle la gratification différée, ils veulent des récompenses tout de suite, donc ils ne se lanceront pas dans des aventures économiques, sociales, scientifiques, sportives, difficiles. Il leur faudra des tout peinards qui soient rentables tout de suite. Donc vous voyez qu'il est important, même si ça fait parfois mal au cœur aux parents, de frustrer, mais tout bébé, les enfants, si on veut que plus tard, ils aient du ressort face aux difficultés dans la vie et qu'ils aient en plus une certaine consistance qui leur permette de relever donc des défis difficiles. Autre propos de Michèle Letourneau, c'est une psycho-éducatrice canadienne mais qui a une grosse responsabilité. Elle s'occupe pratiquement d'un tout qui gère tous les gosses à problème au Canada. Bon, il y en a aussi autant que chez nous. Et voilà ce qu'elle dit de ses enfants. Ils sont convaincus de trouver autant d'amour gratuit à l'école ou dans l'environnement social qu'ils en ont reçu des parents. Ben non, rappelez-vous, lorsque vous êtes rentré dans votre boulot, ben le patron, il ne vous traitait pas comme maman. Ben le patron, c'était le patron. Eux s'attendent à ce que le patron les traite comme maman. Et non, ça va pas. Hein. Lorsqu'ils font face à des adultes qui doivent les éduquer, ce sont ceux-ci, les adultes, qui sont jugés violents et irrespectueux à leur égard. Ils se sentent constamment agressés, et en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont agressifs à l'égard du patron, qui l'évite bien sûr dans les 48 heures, après ils sont boulot, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc là, il y a là vraiment un drame économique, social, tout ce qu'on veut. Alors, vous avez vu tout le cirque qu'ont fait tous les jeunes, là, contre un certain contrat en France, bon, je ne sais pas ce que valait ce contrat, mais enfin, peu importe. Mais c'est ça, ils ne supportent pas que rentrer dans la vie active comporte des contraintes qui ne sont plus du tout le confort de l'enfance ou de l'adolescence avec maman qui veille à tout et papa aussi, c'est souvent quand vous êtes content. Donc voilà donc des difficultés là qui se traduisent tout au long de la vie. Romain Gary, écrivain progressif pessimiste, mais qui constate, qui a en un mot résumé le fait, avec l'amour maternel, la vie fait une promesse qu'elle ne tient pas. C'est vrai que faut bien savoir que les hommes se rendront compte un jour que, oui, ils auront peut-être du mal à trouver quelqu'un qui les aimera autant que leur mère. Alors est-ce que la mère elle-même ne doit pas, quelque part, je ne dirais pas modérer son amour, mais l'éveiller au fait que ça ne sera pas toujours comme cela, très 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 certainement, parce que sinon, ça risque de faire des malheureux et des agressés à vie. Boris Cyrulnik, une maladie nouvelle est apparue, la pathologie de la pléthore due aux excès d'attachement lorsque l'enfant trop aimé perd le sens de sa vie. Voyez-vous donc que trop d'amour peut conduire un enfant jusqu'à perdre le sens de sa vie. Il ne sait plus s'orienter, il ne sait plus affronter le lendemain, il ne sait plus affronter les difficultés. Et là, il y a quelque chose, c'est curieux, mais j'ai remarqué dans la plupart des comportements, ben oui, une pêche originelle derrière tout ça, mais lorsqu'il faudrait se trouver en équilibre, on passe notre temps à basculer d'un côté, ou à basculer de l'autre. Et c'est vrai que, quand on regarde quels étaient les rapports aux parents-enfants, il y a un siècle, il faut dire reconnaître que les gosses étaient élevés extrêmement durement, parfois. Mais le pire, c'est que ça, là, produisait moins de dégâts. Il y a un psychiatre judéo-américain Erickson, qui étudiait les séquelles sur des enfants de deux types d'éducation, soit l'éducation trop sévère, presque pas brutale physiquement, mais dure, et l'éducation au contraire très laxiste. Dans les deux cas, il y a des dégâts. Mais les dégâts sont pires avec l'éducation laxiste qu'avec l'éducation très sévère. D'ailleurs, en définitive, vous savez, prenez la génération de vos grands-parents, c'est ce type d'éducation qu'ils ont vécu. Bah, ils n'ont pas fait de névrose, ils n'ont pas besoin d'aller chez le psychothérapeute, ils n'ont pas pris d'anxiolytique, pas de dépression, et ils ont mené leur vie, bien qu'ils aient eu une enfance infiniment plus dure que celle que nous avons connue, et celle, a fortiori, que vivent les générations actuelles. Donc, on se rend compte qu'effectivement, un excès de sévérité n'est pas recommandable, bien sûr, surtout maintenant, mais que l'excès d'attachement, de gâterie, et risque d'être pire. Alors, pourquoi est-ce que je dis surtout maintenant? C'est qu'attention, là, je dis des choses qui sont vraies, mais il n'est pas question lorsque aucun d'entre vous n'a envie de le faire, de où je rentre chez moi et à partir de demain, je suis. Mais non, c'est que malheureusement, il faut tenir compte des copains des enfants, du consensus social, qui fait que certaines choses qui allaient de soi il y a 20 ans ou 40 ans, maintenant, ne peuvent plus du tout passer. Donc on se retrouve dans une situation qui est véritablement verrouillée et qui est très très difficile à gérer. Néanmoins, et c'est pour ça que je suis venu, je pense qu'il est bon que vous sachiez effectivement tout ce que le père en soi peut et doit apporter. Donc gardez toujours ça à l'esprit, et puis c'est toujours pareil, hein, faut lancer le bouchon le plus loin possible sans le lancer trop loin, parce que si on le lance trop loin, on casse le fil et on ne prendra plus rien. Alors l'absence d'autorité paternelle abîme effectivement réellement les enfants. D'un pédopsychiatre donc contemporain, si l'on en revenait à une puériculture, voyez-vous que ça commence très très tôt, une puériculture un peu plus rigide, on pourrait opérer des miracles, réintroduisant quelque chose qui soit de l'ordre de la frustration, l'allaitement à la demande, etc. Et après, donc, il parle sur ces problèmes d'allaitement à la demande. Et vous savez, il y a un truc terrible avec ces histoires d'allaitement à la demande, c'est que ça crée une dépendance terrible à l'égard du comportement de soif. J'ai surveillé des examens donc, pendant presque 38 ans à l'université, et puis jamais passé avant, et on allait à l'examen, parfois on emmenait deux morceaux de sucre dans la poche, comme bon, c'est 2-4 heures. Alors les derniers examens que je surveillais, chaque candidat avait devant lui, alors la bouteille d'évian, le Coca-Cola, la tablette de chocolat, les gâteaux secs, il y avait toute une panoplie alimentaire dont objectivement ils n'avaient absolument pas besoin. C'était là essentiellement pour les rassurer, ils avaient l'impression que sans toutes ces victuailles, ils auraient peut-être été en état de manque et que ça aurait mis leur succès en péril. Mais c'était vraiment un comportement de dépendance qui se manifestait ostensiblement, et comportement qui est directement lié à la technique de l'allaitement à la demande et qui n'a jamais existé auparavant. Alors bon, vous savez, vous pensez 4 heures, bon ben, on n'a pas besoin de se restaurer au cours de route. Donc vous voyez que ça a des conséquences tout à fait pratiques. Pour contrarier ce principe de plaisir qui dicte sa loi à de plus en plus d'enfants et d'adolescents, je ne vois qu'un retour à la reconnaissance de l'autorité parentale avec ses demandes, exigences, interdits et sanctions. L'adolescence ne fait qu'exacerber ce qui l'attend depuis la toute petite enfance, donc qui dit bébé gâté dira adolescent extrêmement difficile. Soit le principe de réalité qui va l'emporter, soit le principe du plaisir, soit la capacité à affronter la vie et à s'y conduire bien, soit, ma foi, tout ce que le principe du plaisir immédiat peut faire comme dégât. Savoir frustrer en éducation, c'est aussi agir tôt, ne pas craindre d'interdire, de déplaire, même au tout petit. Il va progressivement accepter de ne pas tout posséder. Et ça, c'est pas extrait d'un bulletin de la fraternité Saint-Pédis, pas du tout, non. C'est extrait d'une revue de psychologie de l'enfant qui est plutôt progressiste, et lui c'est un psychologue de l'enfant, et c'est de 2005, c'est tout récent, mais il se rend compte, au vu des gosses qu'il voit en consultation, qu'il y a de plus en plus de dégâts au niveau qui approche quasiment la psychopathologie, et que la seule façon d'essayer de sauver l'embarcation, alors ceux-là, ben, on fera ce qu'on pourra pour eux, mais au moins ceux qui naîtront à partir de maintenant, essayons chez les tout-petits, de leur faire comprendre que le principe du plaisir n'est pas le principe de la vie. La vie, ce n'est pas le principe du plaisir. Et on peut le démontrer par des expériences chez l'animal. Si on donne à un animal l'occasion de ne vivre que par le principe du plaisir, eh bien, il en meurt. De Gibelot, l'incapacité à tolérer la frustration empêche le développement des pensées. Donc ça va très très loin. C'est que non seulement il y aura difficulté à se comporter dans la vie, mais c'est toute la fonction intellectuelle qui risque d'être affectée. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé. Il y a un bouquin qui paraît tous les 8 ans en France, ça s'appelle « Les valeurs des Français », c'est fait par des psychologues de premier plan. Et généralement, à la fin du bouquin, après avoir fait des tas d'enquêtes, des tas de sondages dans toutes les directions, eh bien, les psychologues, les sociologues plutôt, ou les psychosociologues, dégagent différents types, si vous voulez, des grandes lignes de pensée. En même temps, il y aura, je parle, le conservateur, le libéral anarchiste, le poète, etc. En fonction des réponses qu'ils ont données aux différentes questions. Eh bien, dans la dernière édition, qui est, je crois, de 2000, autour de 2004, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas pu cette fois faire ressortir les grandes tendances d'options, parce que les réponses partent dans tous les sens, c'est un profil d'archiviste, et on n'arrive plus à trouver des catégories de personnes qui répondraient automatiquement dans une telle direction à une question, vu qu'elles ont répondu à telle autre question dans la même direction. Donc on trouve maintenant, on est en France, mais ça risque de venir jusqu'à chez vous, méfiez-vous, que chez n'importe qui, on peut trouver n'importe quelle pensée cohabitant avec une autre pensée qui en soi, logiquement et théoriquement, complètement incompatible. Alors ça, bien sûr, c'est plus qu'un phénomène de psychologie, c'est un phénomène de société. Ça veut dire que l'intériorité humaine est en train de se désagréger. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'intériorité structurée avec des grands choix de valeurs et des grandes priorités, où tout à l'heure je parlais, le père introduit l'enfant dans le temps, mais le temps c'est aussi donner à l'enfant l'impression d'urgence, l'impression de hiérarchie des priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Et ça mène automatiquement aussi bien sûr à la hiérarchie des valeurs. Donc si l'intériorité se casse la figure, bien l'intériorité déstructurée ne peut plus accepter une spiritualité structurée. Donc c'est automatiquement la religion qui elle aussi se casse la figure. Vous voyez que tout ça, ça a des conséquences épouvantables. Bon. Alors, ce qui est quand même très beau, c'est que certains de ces enfants éduqués de cette façon, devenus adultes, s'en plaignent. Natacha Polony, journaliste au Nouvel Observateur et Marianne, donc là encore, hein, c'est pas la droite traditionnelle. Nous avons dilapidé l'héritage et refusé de transmettre les valeurs et les codes qui faisaient la civilisation. L'incapacité à dire le réel, donc défaillance des pères, à le classifier, rend vulnérable, prisonnier du monde et réduit aux dimensions d'un heurt, l'esprit critique dont ils sont pourtant si fiers, Il faut un code pour pouvoir se révolter. C'est-à-dire que cette journaliste, bon, plutôt à l'art de gauche, se rend compte qu'ils n'ont même plus de code assez cohérent pour que leur révolte soit une révolte structurée, voulant déstructurer quelque chose de précis. Ça ressemble beaucoup plus à une colère infantile où on tape du pied, mais finalement, c'est pas structurable parce qu'il n'y a pas de cadre qui permettrait de structurer la révolte. Bon, là, vraiment, ça, c'est... Et alors l'autre, quand même, qui est dans un journal un peu plus à droite, pour le Figaro, et plus en plus à gauche, bon. Nous sommes les fils sans père de cette génération qui a rompu le lien avec le passé, refusant de transmettre. Nous, les trentenaires, avons conscience que nous avons manqué de père, mais, dit-il, les nouvelles générations n'ont même plus les armes culturelles pour se rendre compte qu'elles auraient pu en avoir un. Donc, on risque de passer de générations qui se rendent compte que, oui, il y a eu, et parfois aussi par la faute des pères qui ont démissionné, hein, nous ne l'aurons pas, hein, qu'ils ont manqué d'appui, de tuteur, quelque chose de s'accrocher, de solide. Mais le pire, c'est que les derniers-nés, là, ils se rendent même plus compte qu'ils sont malades. Et bon, enfin, là, c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, mais il y a là effectivement quelque chose pour certains qui risque d'être dramatique. Et effectivement, alors, les risques. Mais les risques, ils sont à la fois de deux côtés, et du côté de la pathologie, au sens clinique du terme, et du côté de la tyrannie, au sens politique du terme. Bon. De bord de Paul Vereng, les adolescents de 40 ans ne font plus exception. Une nouvelle catégorie psychiatrique intitulée borderline, il y a des gens qui sont sur le bord du précipice, On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont faire une décompensation. Ils vont passer de la névrose à la psychose, il faudra les interner. N'est autre que celle des patients adultes fonctionnant à un niveau antérieur à l'impact de la fonction paternelle. Donc, ce sont des adultes pour l'état civil, mais ils fonctionnent au fond comme des enfants de 3 ans. Et à propos, alors il fait un jeu de mots là, de ces groupes de pères, parce qu'évidemment, comme la famille se disjoint, on cherche le semblable, donc on forme des bandes de jeunes, donc ça occupe. Groupe de pères, c'est-à-dire des groupes dépourvus de pères, donc il fait un rapport entre le fait que les jeunes ont besoin de vivre en bande, pour trouver une sorte de structure, bon, qui est-ce qu'elle est, c'est souvent la loi de la jungle, la loi de la rue, mais qui remplace la loi des pères qui n'a pas été transmise. Elle représente donc l'aspiration à un point d'ancrage solide, fait de l'homme contemporain, l'hystérique par excellence. C'est vachement dur, mais il y aurait même de cela. Il vous là qui parle, c'est même de borderline, là, l'hystérique. La perte d'une autorité paternelle naturelle a pour effet le départ groupé des fils à la recherche d'une réelle autorité. Alors ça, c'est quelque chose de très curieux, mais les fils qui ont été privés de père, ça se voit très bien, bon, par exemple, chez certains enfants de mères célibataires, bon, maintenant, on n'en parle plus volontiers, donc la mère peut expliquer ce qui s'est passé, mais autrefois, la mère ne disait rien, et l'enfant avait un père qui était mythique. Et très souvent, ces enfants sans père s'inventent un père qui était un homme politique très puissant, un prince. Donc, ils fantasment en général la puissance d'un père théorique. Et c'est très bon pour eux, car à défaut d'avoir un père véritable, ils s'inventent un père qui sert, enfin, très vaguement, de référentiel. Et là, ce qu'ils parlent du départ du groupe des fils à la recherche d'une autorité, eh bien, c'est qu'effectivement, tous ces fils, ils n'ont pas connu réellement une autorité paternelle, à vie, ils sont tentés d'aller rechercher une autorité qui peut être celle d'un gourou dans une secte, qui peut être aussi celle d'un fureur quelconque dans un parti politique. Ce qui fait que le plus marrant, on fallait voir en 68, n'est-ce pas, les filles qui étaient tellement fières de faire un gosse sans père, elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient de fortes chances d'avoir un fils homosexuel, et que la plupart de ces fils sans père sont tentés par ce qu'abhorraient ces mères. Par exemple, j'ai travaillé longtemps pour le ministère de la Défense, il est bien connu que dans les troupes de choc, commando marine et autres, bon, il y a un nombre d'homosexuels très 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 élevé, parce qu'ils n'ont pas eu de père, ils se sont identifiés à l'image maternelle, et après cela, ben, enfin, ils vont même rechercher une symbolique masculine dans l'armée, par exemple. Donc, départ à la recherche d'une réelle autorité, alors bien sûr, on peut aussi là, imaginer ce qui peut se passer en France, avec tous ces jeunes de banlieue, n'est-ce pas, pour qui le père ne voit plus rien, parce qu'il se pense que c'est qu'un portable, mais bien sûr, n'importe quel gourou pourrait les mener à Dieu sait quoi. Bernard Gibello, à conclusion de l'étude d'enfants coupés de leur père, ils sont, note-t-il, conformistes, avec des intérêts intellectuels et culturels modestes, et nombre d'entre eux sont agressifs et deviennent des militants fanatiques et bornés. C'est vrai qu'on ne peut pas imputer, n'est-ce pas, à l'homosexualité d'avoir un rapport avec le nazisme, mais il ne faut pas oublier quand même que tout le SA était fortement marqué par cette tendance, et ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque la presse communiste identifiait directement, ce qui était bien sûr tout à fait exagéré, le nazisme et l'homosexualité. Mais très souvent, effectivement, je connais le cas, j'ai une amie qui était à la fac, qui a divorcé, qui bien sûr a dit pique-pendre à son fils du père, et puis l'image du père, bien sûr, il s'est identifié à l'image de la mère. Alors bien sûr, et c'est pas pour jeter la pierre aux homosexuels qui là sont souvent victimes d'une situation qu'ils n'ont pas inventée, mais il y avait un rapport effectivement entre, je connaissais même un psychiatre qui disait, bon c'était peut-être un peu exagéré, je ne connais pas un seul homosexuel qui a eu un rapport positif avec son père. Donc si une mère ne souhaite pas avoir de fils homosexuel, bien qu'elle laisse le père jouer tout ce rôle d'identification dans la famille. Et puis enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas vous fatiguer, je parle vite et c'est assez dense, même des gens qui sont tout à fait en dehors de nos milieux de pensée se rendent compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et vous savez que Régis Debray, c'est l'ancien guerriero, ce qui avait été, c'est pas au côté du Char, en Amérique du Sud, c'est aussi le conseiller de M. Mitterrand, et beaucoup plus que le conseiller de Madame, passons, mais enfin, il n'est pas idiot, et il a mis de l'eau dans son vin, et ce qu'il dit là, et c'est tout récent, 2006 est tout à fait sensée. La pacification des mœurs repose en définitive sur le renoncement à nos satisfactions infantiles. Or, pacifier les mœurs, ben, c'est à la fois aussi bien éviter les guerres qu'avoir des villes où les voitures ne brûlent pas toutes les nuits. Et pour ça, il faut commencer à savoir éduquer les enfants. La recherche effrénée par les individus dès leur plus jeune âge du plaisir maximal ne peut que déboucher sur un ensauvagement général. Donc c'est bel et bien la civilisation qui est en péril derrière toutes ces affaires-là. Là où défaille l'autorité, ne triomphe que la loi du plus fort. Et on retrouve là le désir aussi de certains jeunes qui n'ont pas connu l'autorité de reformer des groupes de pression, des groupes de puissance, où là l'autorité peut réapparaître, mais d'une façon qui n'aura plus rien à voir avec la civilisation. C'est pour ça que lorsque je parle de tout ça aux jeunes que j'ai là au collège Saint-Étienne, je me dis oui, peut-être que certains d'entre vous se plaignent d'avoir un père qui est embêtant, il dit même un autre mot. Il dit, ben écoutez, pour l'instant, oui, certainement, ça vous déplaît, mais probablement, avant 20 ans, vous vous en féliciterez, mais pour l'instant, bien sûr, vous n'êtes pas encore à même de voir. Donc, mais vous, alors, je ne voudrais surtout pas que toutes les mères qui sont là comprennent que j'ai voulu minimiser le rôle maternel ou le stigmatiser, mais c'est vrai qu'on est passé d'un machisme patriarcal qui était un peu abusif à son inverse. Et ça, c'est dû essentiellement à la pilule qui donne à la femme une liberté sexuelle telle qu'en fait, c'est elle maintenant qui décide de ce qui se passe dans la famille. Et dans ce cas-là, l'image du père, elle est effacée. Et vous voyez qu'effacer l'image du père, c'est beaucoup plus que permettre l'émancipation féminine, c'est mettre carrément toute la civilisation, et particulièrement la civilisation chrétienne, en danger. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Si vous avez des questions, et si je peux y répondre.
Dans les préparations au mariage, je rappelle ce qu'un vieux couple de Bordeaux m'avait dit. Dites-leur bien qu'il y a une hiérarchie. Ils sont d'abord époux et épouse avant d'être parents. Et donc le père doit d'abord aimer la mère avant d'être parent, et la mère doit aimer son mari avant d'aimer l'enfant.
Bien sûr.
Et la mère doit aimer ses enfants dans son mari. Tout est écrit,
C'est vrai que, je dirais, sur le plan.
Ton père, quand il rentre ce soir, il te fout le chien, le gosse, du coup.
Mais c'est vrai que pour une mère, c'est plus facile d'aimer ses enfants, de pas aimer ses enfants. Et je crois même qu'au niveau inconscient, le rapport de la mère aux enfants est beaucoup plus fort que le rapport au conjoint. Il y a une donnée de la nature qui est, dont il faut tenir compte. Mais...
Le père doit montrer des mains avec son enfant.
Bien sûr.
Parce qu'il fut un temps où il y avait une histoire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça c'était tout à fait.
Moi, c'était une dégénérescence. Tu n'as pas été servi. Il rentrait à la maison comme dans un hôtel. 6 mois à l'hôpital, cancer, pas une visite. Et parce que la mère aimait trop les enfants.
C'est bien. C'était même une honte.
Je t'aime bien, mais je suis là.
Ben je vous dis, on est passé d'un extrême à l'autre, de père qui est extrêmement distant, qui manifestait aucun signe de tendresse, à des moments poulbis, quoi. Et encore, le juste milieu.
L'image modèle a disparu.
Mais si vous voulez, autrefois, le père, c'est celui qui savait comment il fallait faire pour vivre. Il avait les techniques, l'artisanat, et ça. Maintenant, alors ça, c'est le vice du progrès. Il y a une telle accélération, mon père défendait, c'est même pas se travailler dans l'ordinateur, je ne sais pas ce que c'est. Bon, la technologie est telle que l'enfant... Je sais qu'il y a un truc qui est terrible, c'est qu'avec tous ces gadgets intelligents, informatisés, les jeunes sont à même de faire des choses extrêmement performantes, sans se rendre compte que la performance, elle n'est pas chez eux, elle est dans l'engin qu'ils ont acheté, avec l'argent de papa. Mais bien sûr, si vous retirez l'engin, là, et vous leur demandez de faire une brouette, elle ne roulera jamais. Donc nous sommes victimes de progrès, qui plus est un progrès accéléré. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Hein.
Ne jamais se discuter devant les enfants.
Oui, en tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que lorsqu'on estime que l'autre parent a été ou trop sévère ou trop laxiste, lui en faire le reproche devant l'enfant. Ça, absolument.
Chaque couple est différent.
On est à nous, toutes femmes, vous voyez, à savoir où est notre
Objectivement, c'est vrai. Il suffirait que les femmes le veuillent, que ça s'arrangerait.
Bravo, madame.
Non, mais j'ai réalisé ça
non, mais c'est vrai.
En disant pour ce livre, parce que je ne l'ai jamais rendu comme compte.
Pour le livre, je vous fais d'emblée une confession et une excuse antérieure, liminaire. Lorsque j'ai donné ce livre, lorsque l'éditeur a donné mon livre à corriger, et pourtant c'était des ecclésiastiques qui étaient censés faire la correction, ils ont trouvé le moyen d'effacer la disquette. Et c'est le moment où ma mère était mourante, j'ai envoyé une disquette en catastrophe au fond de trache, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, ce livre comporte énormément de coquilles de fautes, mais à culpa, mais enfin bon, c'est un péché qui est pardonnable, mais le fond reste là. Mais la forme a été très très mal imprimée. Objectivement, je pense qu'effectivement, ce n'est que par la femme que la société peut s'en sortir. Parce que il faut bien, j'ai l'impression que pendant des siècles, la femme a été meilleure que l'homme, mais les conditions actuelles de civilisation font que certaines deviennent pires que l'homme. Il y a un texte là que je n'ai pas passé pour montrer que le nouveau matriarcat, les femmes d'aujourd'hui sont tellement formatées par l'idée qu'elles se doivent entièrement à leur enfant qu'elles en arrivent à sacrifier leur vie de couple. D'un autre psychiatre, le patriarcat est en pleine déliquescence, d'où un néo-matriarcat. Ce modèle, donc néo-matriarcat, implique une grande liberté sexuelle et l'instabilité. Dès aujourd'hui, ce sont les femmes qui disposent des hommes, ce sont les femmes davantage que les hommes qui brisent les couples. Là, ça rejoint mon bouquin. Et d'André Bégin, donc là, ça, c'est propre à la politique française, je ne sais pas comment c'est en Suisse. La femme peut beaucoup plus facilement aujourd'hui se désintéresser par ses passions. Elle sait que le troisième membre de ce trio qu'elle forme avec son mari, l'État, est là pour prendre en charge les conséquences matérielles et psychologiques de ses actes. C'est vrai que la femme a le pouvoir, elle a une responsabilité terrible, elle peut se sauver le monde, mais si elle n'intervient pas, je suis extrêmement pessimiste. Et je ne me prends pas pour un prophète, mais j'ai quand même été payé par la ministère de la Défense pendant 5 ans pour essayer de faire de la prospective, pour essayer de deviner ce que serait la société... plus tard, et c'est vrai qu'il y a des tas de voix qui se verrouillent, mais effectivement, et les hommes maintenant sont complexés, si la femme leur redonne leur rôle, c'est le balancement de toute révolution. Mais encore faut-il faire entendre une voix de sagesse qui montre que cette révolution-là, elle n'est pas mieux. Je crois même qu'elle risque d'être pire que l'autre. Y compris, c'est très curieux, en plus il y a le problème de l'école mixte qui finalement n'est pas une bonne chose. Vous savez qu'en Amérique ils ont commencé à faire certains collèges en séparant les garçons et les filles, et comme c'était un proviseur de couleur qui avait eu cette idée là personne n'a rien dit, et alors du coup les garçons disaient oui, maintenant on ne ferait plus devant les filles, donc on bosse, les filles travaillaient bien mieux, etc. Même je voyais des statistiques récemment, maintenant dans les cours de lycée les filles se battent pour la paire de gifles, se battent, je crois que c'est les Hongroises qui ont le pompon, je sais bien que d'accord les Attila étaient par là, mais enfin mais c'est étonnant, je crois. À peu près les deux tiers des collégiennes hongroises se sont battues, mais battues fermes, dans l'année précédente. Et comme je le signale dans mon bouquin, c'est triste, mais les pires des bouquins pornographiques sont maintenant écrits par des femmes et non pas par des hommes. Mais malheureusement, certaines femmes, alors qu'elles ont leur génie propre, se croient obligées d'imiter les hommes dans ce qu'ils ont de pire, pour acquérir l'autonomie. Alors là c'est vraiment l'erreur funeste. Non, la femme a développé son génie propre, mais c'est pas la peine d'imiter les hommes. Je me souviens un jour dans une salle d'attente de médecins, de filles qui se battaient avec deux garçons. C'était complètement mimétique, importé. Alors prions pour que les femmes changent et que les hommes acceptent de reprendre leur rôle essentiel.